Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, bonjour. Je suis absolument ravie de recevoir aujourd'hui Cécile Hagman, directrice générale chez la COP Foncière. Bonjour Cécile.
Bonjour Myriam.
Alors, bon, on va pas bouder, j'avoue que j'avais pas prévu ça, mais on va pas bouder notre fierté que la jolie opération que nous avons fait ensemble à Romainville fait l'honneur du JT de 20h.
Tout à fait.
Alors, bon, on va pas commencer. J'ai commencé par là, j'en suis désolée, mais bon, déjà félicitations. Je suis absolument ravie que ce joli programme, et je voulais remercier tous les intervenants. On va commencer déjà un petit peu par le parcours personnel, parce que, bon, pour en arriver à la COP foncière, il y a déjà des engagements forts sur la solidarité, sur le logement, sur l'implication. Alors, comment fait-on pour faire ces choix-là? Ça veut dire que c'est dans l'ADN? Ça veut dire que c'est quelque chose de fort dans son mental?
Oui, je crois que ce sont des valeurs qui sont là depuis finalement assez tôt, presque depuis l'enfance, des sensibilités. Peut-être d'abord des sensibilités, question de justice sociale, d'équité, de solidarité, et puis qui, en grandissant, se transforment en valeurs et en engagement personnel et puis professionnel. Pas vraiment un parcours de militante, mais en tout cas cette volonté, à travers mon action professionnelle, de faire quelque chose qui correspond à mes valeurs, qui répond à ces attendus de justice sociale. Et c'est vrai que le logement est au cœur, et on avait le rapport de la Fondation Abbé Pierre encore hier.
Sûr.
Et donc le logement, c'est quand même la base de la solidarité, la base de la construction de chaque individu. Et travailler sur l'accès au logement pour tous répond à ces attendus de justice.
Alors, il y a le logement, il y a plusieurs logements. Vous avez commencé à travailler à l'Opivois, donc chez un bailleur social, à une époque où, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand même à une époque où, on va dire, le mode de production du logement entre le social et l'accession était assez basique. Hein. Il y avait vraiment le social et l'accession. Il y avait quand même beaucoup de clivage entre les deux, non?
Oui, certainement. Alors, c'est au début du 21e siècle, c'était quand même une petite vingtaine d'années maintenant. Oui, certainement, les choses ont beaucoup bougé sous le coup de nouvelles manières de penser l'aménagement et l'urbanisme. Je sais pas si c'était mieux avant ou si c'est mieux maintenant. En tout cas, on avait...
Non, c'était différent, en tout cas.
C'était différent.
Et la production, quand même, était différente dans la mesure où il y avait peut-être moins de VFA. Il y avait vraiment des savoir-faire en interne chez les bailleurs qui peut-être ont évolué aujourd'hui. Non?
Alors, tout à fait. Je pense que d'abord, au début des années 2000, on était un peu dans un creux de production. Alors, on était beaucoup dans la préoccupation de la rénovation, de la réhabilitation, de la rénovation urbaine, notamment avec l'ANRU, qui ne nous quitte jamais.
qui se
transforme et se renouvelle. Je pense qu'on avait acquis et qu'on a acquis dans le monde HLM une capacité de maîtrise d'ouvrage, une ingénierie, une sensibilité aussi à la modernité, à l'innovation. Et cette sensibilité, il faut que, malgré les évolutions, malgré la montée de la VFA, de la pratique de la VFA, que nous, organismes HLM, alors je dis nous parce que je n'arrive pas à me désolidariser de ce monde-là,
bien sûr.
Mais que les organismes HLM continuent de le faire vivre. Et c'est important que les organismes HLM travaillent avec les architectes et réfléchissent à ce que sera demain, seront demain les modes de vie, et qu'on puisse, à travers le logement social, toujours être en adaptation.
Alors, le logement social, c'est vraiment une particularité quand même française.
Tout à fait.
Au sein de l'Europe, il y a quand même d'autres pays qui développent, qui ont développé des réponses aux problématiques du logement pour tous. Est-ce que vous avez l'impression que aujourd'hui on a les vraies bonnes réponses, ou est-ce que on est quand même encore dans le tâtonnement? Parce que quand on parle de logements sociaux aujourd'hui, on parle aussi de logements indignes, on parle aussi de précarité, on parle aussi... Alors, on a quand même l'impression qu'il y a encore ce clivage. Hein.
Je suis pas complètement d'accord. Je pense qu'on a un modèle en France, un modèle HLM qui est extrêmement robuste, qu'on nous envie et qu'il faut qu'on continue de faire vivre et qu'on continue d'améliorer.
Ça fait des émules d'ailleurs outre-Atlantique.
Tout à fait.
On en parlera.
Donc, je crois qu'on a un héritage dont il faut être fier et qu'il faut qu'on entretienne. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas l'améliorer, mais la question de l'indignité n'est pas une question qui est majoritairement une question HLM. La question de la précarité, énergétique n'est pas d'abord la question du parc HLM. L'enjeu de rénovation énergétique, il est clairement ailleurs. Les passoires énergétiques, elles sont ailleurs également. Donc, on a un parc qui existe, qui peut s'améliorer, mais qui a pour mission d'accueillir les personnes les plus fragiles, des personnes avec des ressources faibles. Donc, bien entendu, dans le parc HLM, ben, il y a des personnes qui sont pauvres, et c'est finalement notre mission et notre vertu de les loger. Donc, je crois qu'on peut toujours améliorer, mais on a un peu tendance, mais c'est peut-être le côté un peu français comme ça, dénigrer un peu ce qu'on a. Et je crois que le parc HLM français est un parc qui est exceptionnel à plus d'un titre et qui fait en tout cas exception dans les modèles internationaux. Et c'est aussi un modèle de sécurité sociale. C'est une manière qu'on a en France de construire cette
Alors, unité. Est-ce que c'est dû aussi au fait qu'il a un mode de financement particulier? Parce
Bien
que le, c'est ce mode de financement qu'on nous envie. Et qui parfois n'est pas tellement compris. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez toujours été comprise? Est-ce que ce modèle-là, qui est le modèle financier aussi de la construction du logement social, a été toujours compris par les politiques sur la manière de faire, sur les enjeux et sur la volonté et l'envie de pouvoir continuer ce modèle-là?
Je crois que globalement le modèle est compris. Est-ce qu'il est défendu? Pas toujours.
Voilà. Ouais, mais c'est ça. Non, je pense que dans ma question, c'était surtout la défense.
On est assis sur un modèle qui est à la fois sur les fonds d'épargne, le livret A, l'épargne populaire, et donc c'est ce qui fait la robustesse du logement social, c'est de pouvoir compter sur la Caisse des dépôts. La deuxième grand financeur du logement social, c'est Action Logement. Donc modèle compris mais mal défendu peut-être en ce moment, et qui aujourd'hui est aussi un soutien très important à toutes les politiques de logement et de logement social en particulier. Donc je crois que le modèle, il est compris, il est diversement défendu, il a eu quelques attaques ces dernières années. On sent bien qu'aujourd'hui on a une politique du logement qui est faible, c'est-à-dire qu'on a peu de moyens alloués, peu d'intérêt d'un certain nombre de nos dirigeants.
Oui, mais en même temps, on a quand même la pression des citoyens, de ceux qui votent, qui vivent dans la ville et dans le périurbain, pour avoir un logement à un prix raisonnable.
Et c'est un travail qu'on mène, je crois, avec les élus locaux. On parle aujourd'hui beaucoup de politique territoriale de l'habitat. Je crois que plus que jamais, aujourd'hui, les politiques de l'habitat, elles émergent du local. Elles sont appuyées sur le soutien d'élus locaux engagés avec leurs opérateurs présents sur les territoires. Et donc, on construit à cette échelle-là, on défend à cette échelle-là.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs offices d'HLM qui se regroupent pour faire force. Il y a des politiques territoriales au lieu d'avoir des politiques municipales. Parce que effectivement, le précaré de l'élu maire par rapport à l'influence de la population sur le devenir de où on est dans la liste en termes de je voudrais un logement social, parce que c'est comme ça que effectivement souvent les élus sont on leur demande un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui c'est plutôt territorial. Est-ce que vous avez l'impression que ça permet de mieux construire cette politique et cette dynamique du logement social?
Je crois que c'est nécessaire. C'est-à-dire que moi, je connais l'Île-de-France, donc je ne parle que de ce que je connais.
Bien sûr.
Mais à l'échelle francilienne, on a aujourd'hui un morcellement communal qui est important, qui permet beaucoup de choses, mais qui peut aussi freiner si on ne réfléchit les politiques du logement qu'à cette échelle-là. Donc, dézoomer un peu, c'est nécessaire. Je pense que la construction de la métropole du Grand Paris, même si elle est inachevée encore, elle prend sens et elle est certainement l'échelle sur laquelle on doit penser les grands équilibres, les grandes politiques de l'habitat.
Elle est un petit peu critiquée quand même.
Oui, mais c'est pas parce qu'elle est critiquée qu'elle a pas Elle est totalement inachevée et sur les politiques de l'habitat, elle a clairement pas fait la preuve encore de tout ce qu'elle est censée nous apporter. N'empêche que c'est la bonne échelle. n'empêche que c'est vraisemblablement la bonne échelle sur laquelle on doit travailler et qu'il faut que les élus locaux participent en fait de cette dynamique métropolitaine. Et je pense que ça progresse, ça avance. Bon, on doit dézoomer l'échelle communale et certainement l'échelle de l'opérationnalité et de la réalisation, mais l'échelle de la politique, de l'établissement de la politique et de la réflexion sur les grands enjeux de rééquilibrage, elle est forcément supracommunale, intercommunale, métropolitaine.
Sur les territoires, on fera peut-être une autre émission, parce qu'effectivement, sur la problématique du territoire, du logement et la manière dont les élus sur le terrain vivent les choses, on a l'impression qu'ils ont constamment le sentiment qu'on leur enlève quand même quelque chose. Comment fait-on justement pour générer cette conscience commune à la fois du logement au niveau de la municipalité et du logement au niveau du territoire, et puis passer à l'échelle métropolitaine?
Je pense que ce sont les citoyens aussi qui poussent leurs élus locaux à se mobiliser. Donc les acteurs, les organismes HLM qui sont dans des positions souvent régionales, au moins départementales, mais en tout cas qui travaillent sur des territoires plus larges, contribuent aussi à envisager les enjeux dans des échelles plus larges. Moi, je pense vraiment que on parle souvent du millefeuille quand on parle des questions Bien territoriales. Sûr. C'est toujours très négatif. Alors, c'est vrai que c'est un petit côté négatif. Et en même temps, ça permet d'avoir en fait des responsabilités réparties à chaque échelle et que chacun soit dans son rôle à sa place. Le maire, le président d'Interco, la maire, la présidente d'Interco. Voilà, chacun et chacune doit avoir ses responsabilités, les exercer en conscience. Et je crois que la pression des citoyens, la pression des associations, la pression des acteurs de l'habitat doit continuer de s'exercer parce qu'elle met en tension toute cette mécanique territoriale et elle oblige à avancer.
Alors ça, c'est un modèle particulièrement vertueux. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui, mais on fera sûrement une deuxième interview, je suis pas sûre qu'aujourd'hui on ait le temps de regarder la totalité de cet enjeu, mais c'est vrai qu'on peut pas le déconnecter complètement à la fois de l'emploi et à la fois de la mobilité et des transports. D'où effectivement la nécessité d'avoir ce millefeuille, y compris en incluant bien sûr la métropole et la région, parce que les problématiques de transport sont aussi faites dans cette région Île-de-France qui est quand même avec des densités particulièrement différentes entre l'hyperdense et le périurbain un peu, on va dire, délaissé, voire compliqué, je dirais, à mettre en œuvre. Alors, je vous remercie. Je peux pas faire autrement que de redire encore une fois à quel point c'est vraiment très très important qu'on puisse se parler aujourd'hui. Et puis, on va dire qu'on se retrouve dans une deuxième interview.
Très bien, merci.
Merci, chers auditeurs, et à bientôt sur nos antennes.
Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.